Monsieur le ministre.
Alors, la diplomatie algérienne donc, continue à être toujours cet instrument qui est un peu le miroir à l'étranger des réalités algériennes. Dans le même temps, c'est vrai que la communauté internationale a beaucoup évolué, que les organisations internationales ont produit beaucoup d'instruments juridiques qui influencent le développement de l'ordre interne, que cela soit en matière de droits de l'homme, en matière de protection de l'environnement. Et l'Algérie est partie prenante à toutes ces avancées de l'ordre juridique international et elle a initié un certain nombre également d'avancées. Je crois que la Constitution telle qu'elle a été amendée le 7 février dernier consacre des évolutions considérables, mentionne d'ailleurs la diplomatie algérienne dans le préambule, ce qui est un encouragement à tous les diplomates à sans cesse prendre une part active à la réalisation des objectifs du pays face au monde extérieur. Et je pense que donc cette diplomatie s'adapte dans ces modèles d'organisation, dans ces modes de fonctionnement. C'est une diplomatie qui s'est considérablement rajeunie. L'IDRI, l'Institut diplomatique et de relations internationales, qui depuis sa création en 2002 par le décret du président Abdelaziz Bouteflika, a formé autour de 500 diplomates, qui aujourd'hui constituent quasiment l'ossature d'une nouvelle génération de diplomates qui assument de plus en plus des responsabilités et qui, dans beaucoup de cas, le font avec brio. Je me réjouis d'être à la tête de ce département au sein duquel j'ai le sentiment que la relève naturelle des générations se prépare et se prépare de manière méthodique et de manière efficace. S'agissant maintenant de la Libye, nous vivons intensément cette tragédie dans nos cœurs, dans notre raison, dans nos corps, parce qu'il s'agit d'un pays frère, un pays voisin, un pays qui a partagé avec nous les dures conditions que le peuple algérien a vécues à travers son histoire, un pays qui a toujours été proche de l'Algérie, même quand dans le passé il y a eu des nuances ou des différences dans la perception de certaines questions. Nous nous sommes toujours retrouvés à la faveur d'une concertation, d'un dialogue qui était bien alimenté par les dirigeants des deux pays. Et donc, ce qui arrive à la Libye nous touche au plus haut point. Ce qui arrive à la Libye est évidemment de la responsabilité des Libyens d'abord et avant tout, mais aussi des ingérences étrangères qui ont considérablement compliqué les données de la situation. La position de l'Algérie, soutenue en cela par l'Union africaine, déjà durant la crise de 2011, était qu'il fallait favoriser des compromis historiques entre Libyens eux-mêmes. Il fallait travailler à une transition inclusive, une transition démocratique, une transition qui serait portée par la réconciliation nationale pour en vue de nouvelles institutions qui soient inclusives, qui soient démocratiques. Cela n'a pas pu se réaliser à l'époque parce que des puissances étrangères avaient des agendas différents. Et ensuite, absolument inavoué. Et ensuite, même lorsque la révolution a triomphé en Libye, la communauté internationale n'a pas été aux côtés des nouvelles autorités libyennes pour faire en sorte qu'une démarche systématique, une démarche de reconstitution de l'État, d'édification d'institutions solides, dans tous les domaines, institutions politiques, mais aussi institutions sécuritaires, une armée nationale, des services de sécurité professionnels qui puissent servir.
Le secret de l'Algérie, Monsieur le Ministre, le secret de l'Algérie a résisté aux tentatives d'intervention étrangère en Libye?
Le secret de l'Algérie, c'est d'avoir toujours fait en sorte et obtenu qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère dans ses propres affaires. Mmh. Et donc, c'est à partir de cette conviction que nous pensons que nos frères libyens réussiront également si nous parvenons ensemble à éviter ou à limiter, à réduire, à éliminer les interventions étrangères dans leurs affaires intérieures. Interventions de toutes sortes, qu'elles ne sont pas simplement militaires. Il y a différentes interventions dans les affaires de la Libye. Alors maintenant, la Libye doit pouvoir redevenir un État solide pour jouer pleinement son rôle dans la région et dans les cadres auxquels nous appartenons ensemble. Même dans le contexte de la lutte antiterroriste, c'est l'État libyen reconstitué, consolidé, doté d'institutions pérennes qui sera en mesure d'apporter une contribution significative à la lutte contre le terrorisme. Les bombardements épisodiques qui se font ici et là aboutissent à disperser les terroristes dans la nature, à rendre donc à démultiplier leur nocivité et les dangers qu'ils représentent pour les pays de la région. Alors même que si la Libye, en tant qu'État reconstitué, fort, démocratique, État regroupant tous les Libyens et donc isolant les minorités, les poches d'extrémisme et de terrorisme, un tel État pourrait être un véritable acteur, composante essentielle dans le cadre de la coopération de la région et de la coopération de la communauté internationale contre le terrorisme.
Concernant le dossier malien, comment se fait le suivi et l'évaluation de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, Monsieur le Ministre ?
Le suivi se fait bien. Il y a un comité de suivi que préside l'Algérie et qui regroupe l'ensemble des pays qui ont participé à l'équipe de médiation qui a travaillé d'arrache-pied pendant 8 mois à Alger pour aboutir avec les parties maliennes à la signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. C'est la mise en œuvre qui pose problème. Il y a un déficit de confiance entre certains des mouvements politico-militaires et le gouvernement. Il y a malheureusement aussi un déficit de confiance entre les mouvements, certaines des composantes des mouvements politico-militaires signataires de cet accord. Il y a donc parfois des affrontements fratricides entre ces mouvements, et cela ne contribue pas à créer des conditions optimales pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger.
Monsieur le ministre, qu'est-ce qui manque au niveau des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour asseoir la paix et secourir les populations en détresse ?
Bon, les Nations Unies ont été fondées il y a 71 ans. Elles ont besoin d'un bain de jouvence. Elles doivent être rajeunies dans certaines de leurs dispositions fondamentales. Le fonctionnement du Conseil de sécurité pour davantage d'efficacité postule une démocratisation. Il faut donc un élargissement de sa composante, des réformes dans son fonctionnement et faire en sorte que le droit de veto, qui est à la base de blocage, de frustration, d'injustice, puisse être à tout le moins réglementé. L'utilisation du droit de veto devrait pouvoir être réglementée dans un premier temps. C'est-à-dire que, à tout le moins, certains sujets ne devrait pas être soumis au droit de veto. Lorsqu'il s'agit de questions susceptibles d'amener l'humanité à un conflit généralisé, on comprend que le droit de veto, si cela devait être un moyen de salut, puisse être utilisé. Mais lorsqu'il s'agit de l'élection du secrétaire général des Nations Unies, pourquoi est-ce que ce n'est pas l'Assemblée générale, qui est l'organe démocratique par excellence, qui vote démocratiquement et qui l'élit? Pourquoi faut-il un processus de sélection dans lequel le droit de veto peut être utilisé? Lorsqu'il s'agit de l'admission de nouveaux membres aux Nations Unies, il faut une majorité importante et il faut une convergence entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Mais si la Palestine n'est pas encore devenue un État à part entière des Nations Unies, c'est parce qu'il y a risque de veto au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, le Conseil doit être revu et corrigé dans certains aspects pour sortir le Conseil de sécurité de certaines pratiques de la guerre froide, de la confrontation entre l'Est et l'Ouest, qui a tendance de temps en temps à ressurgir dans certains comportements et certaines pratiques. L'Assemblée générale doit être véritablement dotée de pouvoir de contrôle de l'action du secrétaire général, de l'action du Conseil de sécurité. La Cour internationale de justice, la CIJ, Non, la Cour internationale de justice, pas la Cour pénale internationale. La Cour internationale de justice est l'un des organes principaux des Nations Unies et elle rend des services éminents lorsqu'elle dit le droit.
Oui.
Lorsqu'elle dit le droit. Mm-hmm. Ainsi, la Cour internationale de justice a, par exemple, donné une valeur universelle au principe de l'intangibilité des frontières héritées aux indépendances en Afrique. Lorsqu'elle a eu à juger certaines situations en Afrique, en disant entre la Libye et le Tchad, par exemple, la Cour a consacré le principe de l'intangibilité des frontières comme étant un principe de droit international contemporain. Et donc, il y a beaucoup de réformes de cette nature à opérer. Il y a évidemment toutes les implications de la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2030. Il faut veiller à ce que le financement de ces objectifs soit également mobilisé en faveur des pays les plus démunis, notamment. Tout à fait. Donc, beaucoup de réformes sont nécessaires dans le système des Nations Unies. Nous avons un nouveau secrétaire général qui a prêté serment, M. Antonio Guterres, qui est un ami de l'Algérie, qui se plaît à saluer le rôle de l'Algérie dans la démocratie, dans le triomphe de la démocratie au Portugal, parce qu'un certain nombre de personnalités portugaises éminentes avec lesquelles M. Antonio Guterres a eu à travailler dans le Parti socialiste portugais ont été exilés pendant les années de la dictature portugaise et ces personnalités-là ont bénéficié de l'hospitalité généreuse de l'Algérie.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Je vous remercie. Meilleurs vœux à vous, à tous vos collègues, toutes vos familles, ainsi qu'à toutes vos auditrices et vos auditeurs. Et je sais qu'ils sont très nombreux à l'occasion des fêtes de fin d'année, en souhaitant que 2017 vous apporte davantage de succès.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Au revoir. C'est la fin de cet entretien. Il vous a été présenté par Wassila Bouhabi. D'excellente écoute sur les ondes de Radio Algérie Internationale. Au revoir.